Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le retour de Marine. Bonjour Marine.
Bonjour.
As vu le succès qu'on attend.
Le très attendu La La Land dont je vais vous parler. Et puis dans un tout autre registre, eh bien, je vais vous parler d'un documentaire très réussi également qui s'appelle Et les Mistral gagnants.
Et puis avec Manu, eh bien, on fera une sorte de spécial Jim Jarmusch. Toi, tu as vu
Patterson qui est sorti déjà il y a un moment. Et je vous parlerai aussi de La Communauté de Thomas Vinterberg.
Et moi, donc, de Jim Jarmusch, j'ai vu Gimme Danger, qui sort le 1er février. Et puis, j'ai vu eh bien, deux autres films qui sortent le premier, celui de Danny Boone, Red Ding, plutôt raté. Et puis, Un jour dans la vie de Billy Lynn, de Ang Lee, qui, lui, est quasiment eh bien, invisible en France.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et on commence donc avec La La Land. Dans la cité des anges, Mia rencontre Sébastien. Comme beaucoup, elle voudrait devenir actrice, mais n'a encore jamais fait aucun film, hein, et se contente de servir des cafés à de vraies actrices dans les studios de Hollywood. Et lui est un pianiste fauché, obsédé par le jazz, espérant un jour ouvrir son propre club. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils se séparent, et entre les deux, ils chantent et ils dansent, car La La Land est une vraie comédie musicale dans la plus stricte tradition du genre. Alors le film s'ouvre sur deux séquences qui sont de véritables tours de force au niveau mise en scène. Alors vous n'aviez pas l'image, mais grosso modo, la musique qu'on a entendue, eh bien, donc, c'est la première scène durant laquelle des gens dansent sur leur voiture en plein embouteillage à Los Angeles. Mais ces premières séquences, eh bien, peuvent s'avérer un peu crispantes si vous n'êtes pas un passionné des comédies musicales. Heureusement, passé une première partie submergée par la musique, on se concentre sur l'histoire d'amour. Et le film s'avère aussi convaincant dans ses scènes dialoguées que dans ses scènes chantées. Rien n'est convenu, rien n'est cliché, rien n'est attendu. Et même quand La La Land se vautre dans un romantisme assumé, ça n'est jamais mièvre grâce à d'excellents dialogues et à d'excellents comédiens qui parviennent à être crédibles même en faisant des claquettes. En résumé, si vous n'aimez pas les comédies musicales, si vous n'aimez pas les comédies romantiques, si vous n'aimez pas ni Ryan Gosling ni Emma Stone, La La Land vous fera changer d'avis sur tous ces points. Alors, est-ce que vous saviez d'où venait Ryan Gosling ? Comment est-ce qu'il avait commencé sa carrière artistique ?
Eh bien, j'imagine qu'il chantait, dansait des claquettes.
Alors, parce qu'à force, enfin, avant de faire son malin chez Nicolas Wigdin Refn, Ryan Gosling participait à une émission quand il était ado qui s'appelait le Mickey Mouse Club, avec Justin Timberlake et Britney Spears quand même, dans lequel, en effet, il chantait et il dansait. Donc voilà, il revient de loin et tout cet entraînement, eh bien, a fini par lui servir des années plus tard. Il lui rapportera sans doute un Oscar, hein, bien que sa performance soit presque éclipsée par celle de Emma Stone. Le duo fonctionne vraiment, la mise en scène aussi. Damien Chazelle est fortement imprégné de l'univers de Jacques Demy, entre autres, et cela se sent. Bardé de références et d'hommages, son La La Land n'a pas à rougir de la comparaison avec les comédies musicales qui l'ont précédé. Mais le réalisateur de seulement 31 ans ne joue pas la carte du vintage à tous les étages et parvient à injecter également à son film une bonne dose de modernité. Il réalise également un vrai travail sur le rythme et sur l'arythmie, ce qui n'est pas surprenant de la part d'un réalisateur aussi obsédé par le jazz, puisque pour rappel, il a réalisé Whiplash. La La Land, c'est plus qu'un hommage aux grandes comédies musicales, c'est un très bon film, tout simplement. Bon, voilà, Oscar pour tout le monde, voilà, et on n'en parle plus.
Merci Marine. Tu voulais ajouter quelque chose, Manu ?
Absolument pas.
De toute façon, tu ne l'as pas vu, donc tu n'as rien à ajouter. C'est un très bon film, que personne ne me contredise.
Alors après la comédie musicale, on va parler d'un groupe mythique, c'est les Stooges.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
« pendant que Jim Jarmusch présentait Patterson en compétition à Cannes, le réalisateur présentait également en loose day, en séance de minuit, un documentaire intitulé Gimme Danger. Il s'agit d'une déclaration d'amour aux Stooges, le groupe punk emmené par Iggy Pop. Alors pourquoi les Stooges ? Pour le réalisateur, le groupe incarne la flamme du rock'n'roll. Il aime ses pulsations viscérales, son psychédélisme déjanté, ses rythmes à la fois blues et country et les paroles névrotiques minimalistes. Il aime aussi son leader, Iggy Pop. Jarmusch explique qu'il réincarne aussi bien Nijinsky, Bruce Lee et Harpo Marx qu'Arthur Rimbaud. Moi, je trouve ça joliment dit. Alors, qui de mieux pour raconter l'histoire du groupe que James Osterberg, soit Iggy Pop. Le leader est au centre du dispositif et c'est plutôt une bonne chose parce que l'homme est très lucide sur ce qu'il a été, ce qu'il est et aurait pu être. Autour d'Iggy Pop, il y a tous ceux qui ont fait le groupe de près ou de loin. On y trouve des vivants, James Williamson, Mike Watt et Iggy Pop, donc. Et puis des morts comme les frères Asheton et le saxophoniste Steve Mackey. Jarmusch a ressorti des archives dont certaines sont sans doute très rares. Il y a évidemment alors, les interviews, mais également les extraits des émissions de télévision et surtout des concerts de l'époque. Hein. Pour un groupe qui voulait balayer la soupe 60s et qui est devenu un précurseur du mouvement punk, tout ce que Jim Jarmusch expose en est la preuve. Quelle époque, hein, avec un leader du groupe qui l'avoue lui-même, personne ne savait vraiment jouer la musique. Iggy Pop était batteur à l'origine, hein, mais est devenu chanteur du groupe. Et avant un morceau, eh bien, il montrait à un des frères Asheton la mesure qu'il devait jouer pour le morceau et puis bah, l'autre, il s'exécutait. Alors, Iggy Pop raconte l'énergie des débuts, raconte comment il s'est mis à se déhancher comme un babouin sur scène, hein, ce sont ses mots, et comment ça a pris auprès du public. Mais il raconte aussi comment alors, le groupe fut détesté par ce même public, les concerts étant parfois eh bien, une vraie épreuve qui se terminait bien avec la baston. On sent une fascination de Jarmusch à l'égard de cette figure du rock, alors que son cinéma peut être froid, en tout cas ce que j'ai vu dernièrement est taiseux. Ici, on est dans la légèreté, la forme est si captivante que même si on n'aime pas les Stooges, même si on n'y connaît rien, eh bien, il me semble qu'on est intrigué. D'autant qu'évoquer les Stooges, c'est traverser toute une époque, la fin des années 60 évidemment, hein, la contre-culture américaine et une partie des années 70. Le groupe se liquéfiant en 1976 après des échecs tant publics que critiques. Alors il y a tout un passage très instructif aussi sur David Bowie essayant de récupérer Iggy Pop. Le récit du leader des Stooges sur le Britannique est là encore captivant. Bowie y apparaît comme un businessman de la musique mondialisée quand Iggy Pop n'est qu'un spectateur un peu abruti du temps qui passe. Gimme Danger, titre emprunté au deuxième morceau de Raw Power, le troisième album des Stooges, est un documentaire dont on ne sent pas la patte Jarmusch, mais qui nous plonge dans l'histoire d'un groupe fondateur. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Et on passe maintenant donc à Patterson, film de fiction cette fois-ci, de Jim Jarmusch.
Petit aparté, hein, pendant le film, ils parlent à un moment donné d'Iggy Pop et des Stooges, comme quoi c'est un des plus grands groupes du monde. Enfin, je ne sais pas quand a été réalisé en premier, si c'est le documentaire ou le film.
Pas évident, je pense que le documentaire a été réalisé dans la durée, donc peu avant.
Donc c'était amusant, voilà. Alors Patterson, bah, il vit, hasard des hasards, à Patterson, dans le New Jersey, hein, ville des poètes, William Carlos William, dont je n'avais jamais entendu parler, à Allen Ginsberg, il est largement cité dans le film et source d'inspiration évidente. Alors chauffeur de bus, hein, il mène une vie tranquille, aux côtés de Laura, sa compagne, et de Marvin, un bulldog anglais. Alors chaque jour, Patterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas. Alors œuvre apaisée et humble, Patterson signe quand même le retour en forme de Jarmusch après le très suffisant et j'irais même insupportable Only Lovers Left, ton film de vampire. Hein. Il s'agit en apparence du moins d'un tout petit film, hein, simple et touchant, il ne se passe pas grand-chose, mais par son épure, cette ode à l'humanité touche au cœur, d'autant que les poèmes qui parsèment le film et s'affichent à l'écran d'ailleurs n'ont rien d'affecté, ils sont très émouvants et écrit par un vrai poète, Ron Padgett. Alors Jarmusch déroule tranquillement son ouvrage sur le quotidien d'un Pierrot de la Lune sur une semaine. Le film n'évite pas une certaine langueur et l'ensemble peut paraître répétitif, mais il parvient à capter une certaine poésie du quotidien, voire même une grandeur inattendue. Au fond, le cinéaste dresse le portrait d'une sorte de héros de l'ombre qui écoute ses contemporains, reste placide face à l'adversité et relativise lorsqu'un incident dramatique lui tombe dessus. Alors Adam Driver est formidable, hein, il prête sa démarche nonchalante et son visage un peu de poupin à ce personnage placide, hors du temps et anachronique. D'ailleurs, il n'a pas de portable et il n'en voudra jamais. C'est un peu insistant, mais ça revient un peu en boucle dans le film. Hein. Alors Jarmusch s'intéresse aussi et surtout au couple à la fois décalé et conventionnel qu'il forme avec Laura, alors lui chauffeur de bus et poète, qui vit pourtant pleinement sa vie terrestre, elle amoureuse transie et excentrique, qui s'émerveille d'un rien, alors elle est obsédée par les motifs noirs et blancs qui contaminent une déco hallucinante, on dirait un appartement un peu vache, enfin, ça ressemble à une vache, elle s'habille pareil, enfin, tout en noir et blanc avec des taches, enfin, c'est assez marrant en fait. Et puis elle rêve de devenir une grande chanteuse de country aussi, ce qui nous vaut des scènes très très amusantes. Alors, et pourtant, rien de plus banal que ce couple charmant mais désuet. Elle reste à la maison attendant patiemment le retour de son homme, une sorte de troubadour des temps modernes. Cette femme conjugale qui prône, on va dire, un art de vivre tout entier dévoué aux petites attentions journalières peut surprendre de la part d'un auteur marginal associé à la rock attitude. Mais peut-être qu'au fond, il y a un petit côté, je ne vais pas dire subversif, mais pas loin que de chanter les louanges d'une existence harmonieuse à la manière d'une chanson de geste ou d'un haïku. Car Jarmusch se rapproche à bien des égards de certains cinéastes asiatiques contemplatifs, à commencer par Ozu, mais aussi le plus contemporain Hong Sang-soo, le coréen, dont sort aujourd'hui son 18e film, je crois. Alors Patterson, c'est une chronique chaleureuse qui donne envie de se lever dans une vie assez paisible et sans contrainte. Il émane du film une douceur qui tranche avec le cinéma contemporain, même quand le film bascule, non pas dans le drame, mais vers une déception, une disparition plutôt, mais qui n'a rien d'irréversible. Alors la forme étant en adéquation avec le fond, Jarmusch, comme à son habitude, il filme admirablement bien les lieux, aussi bien à l'intérieur de la maison que la ville en fait, qui reflète vraiment quelque chose d'assez fort. Alors il s'adjoint d'ailleurs les services du chef opérateur de David Lynch, Frédéric Helms, son chef op habituel, notamment pour Mulholland Drive, oui. Blue Velvet également. Alors voilà, c'est un film vraiment très agréable, une sorte de rêve éveillé. C'est aussi la limite de ce film, peut-être, qui manque d'enjeu, qui est un peu cotonneux, mais qui est quand même une très bonne surprise de la part d'un réalisateur dont je n'avais pas vu un aussi bon film depuis Dead Man, peut-être.
Film sorti en décembre, c'était un petit rattrapage donc à l'occasion de la sortie du documentaire sur les Stooges, Gimme Danger. Et on va parler d'un autre film qui sort le 1er février, et c'est celui d'Anne Dauphine, Julian et les Mistral gagnants.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Retranscrire le quotidien d'enfants gravement malades, tel est le point de départ moyennement joyeux, je vous l'accorde, du premier documentaire de Anne Dauphine, Julian. Nous suivons plusieurs très jeunes pensionnaires d'un hôpital de Paris. Il y a Ambre, Camille, Charles, Imad, Tuc Dual. Ils ont entre 6 et 9 ans. Ils sont malades, voire même en fin de vie, malgré leur jeune âge. Adapté d'un roman de la réalisatrice lui-même inspiré de sa propre expérience, ce film pouvait laisser présager un traitement assez mélodramatique en osmose avec son sujet finalement, et ce n'est pas du tout le cas. Le film est empreint d'une grande pudeur et d'une certaine sérénité. Il n'y a pourtant aucune distance avec ce qui est filmé, spontané, cru. La parole de ces enfants est retranscrite de façon frontale et naturelle. La caméra les suit à leur hauteur, au sens propre du terme, les adultes restant des figurants. Le documentaire réussit de façon assez extraordinaire à éluder la tristesse pour ne garder que la joie de vivre de ces pensionnaires pas comme les autres, qui parlent de la maladie et de la mort avec une simplicité et une maturité assez déconcertantes, nous mettant ainsi face à nos tabous d'adultes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne sort pas du film déprimé ou abattu. Au contraire, il délivre un message très optimiste. Et je pense qu'il faut vraiment prévenir les gens afin qu'ils aient envie d'aller voir le film, car c'est un film qu'il faut voir. Le film n'est pas construit autour d'une dramaturgie factice, il n'y a pas de sensationnalisme, il n'y a pas d'enfant qui meurt. En fait, c'est un film assez drôle. C'est un film assez drôle et c'est vraiment une leçon de vie et une leçon de cinéma, presque, on pourrait dire. En fait, c'est vraiment un film que je conseille, et on va donc écouter la réalisatrice Anne Dauphine Julian.
Le projet en lui-même, l'idée, elle s'est ancrée dans mon expérience personnelle, dans mon expérience de vie. Moi, j'ai eu une fille qui a eu une maladie très grave et qui est décédée de cette maladie. Donc une épreuve assez compliquée à gérer. Mais à travers la vie de ma fille et la façon dont elle a appréhendé cette maladie, j'ai découvert une autre façon de concevoir la vie. En fait, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, j'ai refait comme un enfant, quoi. Je me suis dit qu'elle arrivait à être heureuse dans ces moments compliqués parce qu'elle vivait un instant après l'autre. et que si je voulais y arriver, je devais faire la même chose. Et en effet, je pense que l'instant présent, ça nous rend... Voilà, c'est une bonne façon de vivre toute une vie. J'ai mûri cette histoire personnelle, et puis j'ai réalisé que ce n'était pas du tout le propre de ma fille, mais que beaucoup d'enfants que je rencontrais, confrontés à des difficultés quelles qu'elles soient, et d'enfants tout court, avaient cette même conception de la vie. Et donc j'ai eu envie de le raconter. J'ai envie de le raconter, pas pour filmer l'hôpital, pas pour axer sur la maladie, mais vraiment pour faire un film sur la vie et inviter un spectateur, les spectateurs à retrouver leur âme d'enfant à travers le regard que ces enfants qui pourtant connaissent les difficultés de la vie continuent à porter sur l'existence. Quand j'écrivais le projet, ça, il y a quand même un long temps de préparation du projet, un jour je me suis rendu compte que je chantonnais tout le temps Elle est Mistral gagnant dans ma tête. Donc ça m'a interloqué. C'est une chanson que j'aime comme 99% des Français. Elle a été élue chanson la plus aimée du siècle passé. Et en fait, c'est ce que dit Renaud. Renaud, il dit « Rappelez-vous quand vous étiez petit, qu'on sautait dans les flaques, qu'on mangeait des bonbons. On savait que tout ça s'arrêterait. On savait que la vie était difficile, mais ça ne nous empêchait pas d'aimer la vie et l'aimer même si. » Et je me suis dit « On est animé par le même esprit, en fait. » Donc ça m'a paru cohérent.
J'ai trop content, là. Je leur dis parfois « J'étais à l'hôpital, par là. » De réexpliquer chaque fois, ça, c'est pas facile.
Moi, j'avais dès l'origine une idée. J'avais jamais fait de film, hein, donc il y avait plein de choses qui m'échappaient encore sur la technique, etc. Mais j'avais les idées claires sur plusieurs points. Le premier, c'était que je ne donnerais la parole qu'aux enfants. Parfois, l'enfant interagit avec des adultes, donc on entend des voix d'adultes, bien sûr. Mais celui qui s'adresse à nous, c'est l'enfant, c'est tout. Et l'enfant, d'ailleurs, très épuré et sans interprétation d'adulte. Et pour ça, pour avoir cette voix d'enfant, pour avoir cette parole, il fallait se mettre à leur hauteur à tous les sens du terme. Donc d'abord, c'était se baisser, donc des caméramans qui portaient la caméra comme un bébé, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était déjà la première chose. Je voulais aussi qu'il n'y ait qu'une seule caméra. On a filmé avec une seule caméra pour éviter d'enfermer l'enfant qui se sente cerné de toutes parts et qui sache d'abord à qui il s'adressait toujours, que c'était cette caméra qui le filmait et que son interlocuteur, c'était dans cette direction-là. Et que s'il avait envie de sortir du champ, même spontanément, comme sont capables de le faire les enfants qui se lèvent et qui disent « je m'en vais », comme Ambre à la fin qui dit « je m'en vais », et bien ils puissent le faire sans qu'on les suive, sans se sentir traqués. Et je trouve que ça participait au mouvement du film. Et ensuite, ce qui m'a paru le plus important, c'était de respecter le rythme de l'enfant. C'est eux qui nous proposaient ce qu'on allait filmer. Nous, on savait qu'on filmait lundi, mardi, mercredi. Mais on leur disait « où est-ce qu'on va avec toi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»
Hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie qui touche mes poumons et mon cœur. Avant, par exemple, de jouer une scène, je souffle et j'y vais, c'est tout.
Parce que nous, on est empreint d'une gravité et que finalement, on s'apitoie sur les larmes qu'on a eues avant. C'était de respecter cette alternance de moments difficiles, quotidiens. Il n'y a rien de grave dans le film. C'est du quotidien qui parfois est douloureux, auquel se succède instantanément, dans le même mouvement, un moment léger. Parce que l'enfant est comme ça. Quand c'est difficile, il pleure, mais quand la peine est finie, il arrête de pleurer et continue à jouer.
Je suis malade. Maman, elle m'a tout expliqué quand j'étais tout bébé. Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux.
En fait, le point commun qu'il y a, je veux dire, entre le film réparé ou l'histoire de Réparer les vivants et le documentaire Les Mistral gagnants, c'est que ce qui est au cœur du projet, c'est la personne humaine. Dans un contexte particulier qui est l'hôpital, le soin, la greffe pour réparer les vivants. Mais c'est que on avait comme volonté commune de mettre la personne humaine au cœur du projet. Et donc, ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle peut vivre, et du coup, que le milieu hospitalier, que l'épreuve, que la maladie, que l'accident, fait partie de la vie sans pour autant la définir.
C'est pas grave, on laisse tomber les choses qui nous tracassent et on vit avec. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de soucis.
Les enfants du film, c'est juste des enfants en fait, ils sont pas extraordinaires. Enfin, ils sont incroyables parce qu'ils disent des choses et parce qu'on leur a donné la parole et qu'on l'a recueilli. Mais c'est juste des enfants quoi.
T'as des grosses fesses trop lourdes.
Anne-Dauphine Julien, la réalisatrice de « Et les Mistral gagnants » passe à tout autre chose, le dernier Ingli.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Voilà une chronique sur un film sacrifié. Le film, c'est Un jour dans la vie de Billy Lynn de Ang Lee, qui a fait un flop aux États-Unis. Alors que le budget du film est de 40 millions de dollars, il n'a obtenu que 1,7 million de recettes. Autant dire rien. Et s'il va pouvoir engranger un peu plus d'argent pour sa sortie en France, il ne pourra pas compter sur beaucoup d'écrans. Moins de 20 salles dans le pays projettent ce film distribué par Sony Pictures, qui n'est pas le dernier des distributeurs. Hein. Pourtant, ce sont eux qui distribuent encore en ce moment Passengers et Premier Contact. Pourtant, Ang Lee n'est pas le premier venu des réalisateurs non plus. On peut citer Sans peine Tigre et Dragon, Le secret de Brokeback Mountain ou encore l'étonnant L'Odyssée de Pi. Et puis on peut aller du côté de Hulk aussi. Mais alors que se passe-t-il? Est-ce un mauvais film? Eh bien non, c'est même tout le contraire, ce qui est d'autant plus rageant. Un jour dans la vie de Billy Lynn marque un tournant. C'est le premier long métrage de l'histoire du cinéma à être tourné en 120 images par seconde en résolution 4K et en 3D. Alors pour ceux qui sont hermétiques à la 3D, l'IMAX et qui préfèrent les griffures de la pellicule du petit cinéma art et essai, eh bien ce n'est pas très excitant comme programme. Pourtant, le procédé n'est pas dénué d'intérêt. Ce qui est nouveau ici, c'est la technique des 120 images par seconde. Selon les défenseurs de cette technologie, réalisme, fluidité et immersion se retrouvent renforcés. Moi, je dois bien admettre qu'après avoir vu les 48 images secondes utilisées par Peter Jackson pour la série des Hobbits, le résultat n'est pas forcément emballant et suppose qu'on change ses repères esthétiques. Pour Ang Lee, il s'agit d'emmener le spectateur dans une zone où il ferait l'expérience de la clarté d'esprit des soldats confronté à des situations chaotiques. Car s'il se confronte à la technologie, eh bien, c'est pour son propos. Inspiré d'un roman de Ben Fontaine, Un jour dans la vie de Billy Lynn nous ramène en 2004, deux ans après le début de la guerre en Irak. Billy et ses potes de régiment ont perdu un des leurs sur le sol irakien. Lors d'une attaque qui a été filmée par les soldats grâce aux caméras sur leurs casques, les images ont révélé leur héroïsme, surtout celui de Billy, qui n'a pas hésité à risquer sa vie, à tuer quatre hommes à la minute, dont un en corps à corps pour sauver son sergent. Bingo, voilà la dizaine de soldats de retour aux États-Unis pour être fêtés en héros. L'administration Bush souhaite les voir parader au pays avant de retourner au front. À l'amorce de Thanksgiving, les voilà intégrés à une conférence de presse et exposés médiatiquement lors d'un match de football américain à Dallas, où à la mi-temps, eh bien, ils vont être intégrés au spectacle de Destiny's Child, donc le groupe de Beyoncé. Ce qui est très réussi dans la mise en scène, c'est que ce moment de show, comme on en voit chaque jour aux États-Unis et ailleurs, hein, est d'une rare violence pour les soldats, quasi pornographique. Les soldats sont exhibés comme héros, mais pris et jetés comme de vulgaires figurants. Ils n'ont alors rien de spécial, ils composent les États-Unis autant que Beyoncé, les footballeurs américains et le hot dog fourni à la mi-temps. Le film ne dure quasiment que le temps de ce match de football, et de l'Irak, nous ne voyons que des flashbacks, de l'attaque héroïque, des fragments. En plus de cette surexposition médiatique préparée par les autorités pendant une grande partie du film, un agent tente de vendre leur histoire à ses soldats à Hollywood. Mais en affaire, le patriotisme et l'héroïsme deviennent secondaires et ces soldats portés au devant de la scène médiatique ne comptent plus quand il faut sortir les dollars. Billy, qui était parti au combat au corps vierge à 19 ans pour financer les frais d'hospitalisation de sa sœur, va passer donc une demi-journée, moitié hallucinée, moitié lucide, où il devra déterminer s'il doit repartir ou rester, comme lui demande sa sœur, le seul personnage à se soucier vraiment de lui. À noter que le film réunit, alors pas dans la même scène quand même, hein, Kristen Stewart et Vin Diesel, deux personnages aimants, l'une est la sœur de Billy, et voit bien que la guerre n'est faite pour personne et surtout pas pour son frère, et puis l'autre joue le sergent gros biscotto, plein d'amour pour ses hommes, alors que le film est très bavard, hein, il ne parle pas beaucoup, le Vin Diesel. Ang Lee a dû mesurer les limites de l'acteur. Au contraire, le jeune comédien qui interprète Billy doit autant interpréter la dureté, la douceur, la naïveté que l'introspection. Un vrai rôle dont il se tire très bien, bien plus convaincant que celui de Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde de Dolan, hein, qui avait à peu près la même expression tout en intériorité. Voilà. Alors il sera difficile de voir un jour dans la vie de Billy Lynn en salle. Je ne crois pas l'avoir vu dans le réseau Utopia, qui préfère les biopics, comme celui sur Madame Kennedy, qui sort la même semaine. Deux visions de l'Amérique, c'est celle qui ressemble davantage à l'ère Trump. Celle-ci, là, le film de Ang Lee, eh bien, ne se retrouvera pas dans les salles. On verra plutôt donc, le biopic de Madame Kennedy.
J'avais une question. Oui. Est-ce que Beyoncé, du coup, apparaît dans le film?
Non.
Ah bon, bah, comment il a fait, alors?
On la voit de dos, évidemment.
Petit malin. Mais...
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Presque 20 ans après, Thomas Vinterberg n'en finit pas de courir après le succès de son second et meilleur film, l'incontournable Festen et son histoire de famille qui part en sucette. Alors la communauté s'inscrit hein, dans un registre similaire, en plus léger, mais l'espoir de retrouver le Danois en pleine forme après une série de désastres artistiques se confirme par une éclatante entrée en matière. Alors nous sommes plongés au cœur des années 70. La reconstitution d'une époque révolue où règnent encore certaines utopies est crédible. La bande-son très folk-rock, tendance hippie, caresse agréablement les tympans et l'atmosphère baigne dans une joie de vivre très communicative. Hélas, ça ne dure pas. Alors pour résumer, il est bien question de communautés. Hein. Eric, professeur d'architecture, et Anna, journaliste à la télévision, s'installent avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa d'un quartier huppé de Copenhague. Alors, ils décident de tenter l'expérience de la communauté. Ils invitent des amis, organisent aussi des castings afin de créer une véritable famille de cœur pour mener une vie en collectivité. Alors, dans ce microcosme moins libertaire que prévu, hein, les contraintes, donc les règles, hein, sont néanmoins présentes. Les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à un vote. Alors, tout a l'air de fonctionner jusqu'à ce qu'Eric rencontre une de ses étudiantes avec qui il va entamer une liaison. Et oui, l'amour ou le sexe ou la passion, au choix, ça fait tout capoter, même les plus belles idées. Alors, après un bon démarrage, hein, Vinterberg s'embourbe dans une histoire d'adultère convenue et se prend les pieds dans le tapis. Finalement, il passe à côté du thème principal. Ce n'est pas tant son absence de point de vue sur la communauté elle-même qui dérange, mais le fait de ne pas traiter le sujet du tout. Alors, hormis Eric et Anna et leur fille, hein, tous les autres personnages sont à peine esquissés, apparaissant de façon purement fonctionnelle à l'écran. Ils ne sont présents que pour manger, voter, juger et mettre un point de vue lors de leur réunion organisationnelle. Alors rapidement, hein, Vinterberg se détourne du film choral attendu pour livrer une banale histoire de couple à la dérive et le portrait d'une adolescente s'éveillant à la sexualité. Alors l'ambition du cinéaste est à chercher du côté de Bergman. Si on songe évidemment à Scènes de vie conjugale, c'est surtout grâce à l'interprétation remarquable de, alors je ne sais pas si je vais arriver à prononcer, Trine Dierholm.
Oui, c'est parfait.
Ça doit être ça. Prix d'interprétation d'ailleurs à Berlin pour ce rôle. Dans le rôle d'Anna, femme perdue entre deux âges, délaissée pour une jeunette par un mari phallocrate, Vinterberg touche, l'actrice touche juste. Hein, Vinterberg aussi, quand il filme sincèrement cette femme mûre au bord de la crise de nerfs, hein, tentant de sauver la face mais finissant par exploser littéralement. On pense un petit peu à Une femme sous influence, hein, le chef-d'œuvre de Cassavetes, mais la comparaison est écrasante. Hein, la mise en scène de Vinterberg est plate entre naturalisme forcé et vignette nostalgique un peu cliché. Car au fond, hein, derrière ces oripeaux, on va dire libertaires, la communauté se complète dans le prêt-à-penser conservateur. Hein, la seule idée avancée sur le principe de communauté est un peu désolante. Les réflexes petits bourgeois d'une éducation formatée finissent toujours par ressortir et donc s'épanouir dans une communauté est un leurre. Alors paf, dans les dents, bande de hippies dégénérés, ou babacool la petite semaine. Alors c'est un petit peu mesquin, hein, d'autant que je suis sûr que des vraies communautés, ça existe et qui perdurent dans le temps aussi, quoi. Je trouve que la vision, elle est un peu... je trouve que c'est un film un peu mesquin.
Merci, on passe sans transition à la comédie de la semaine.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et c'est Red Dunk de Danny Boone. Pour ceux qui ont vu Superchondriaque, ce qui est frappant, eh bien, c'est le mélange de la comédie et du film d'action-aventure. Une recette que Danny Boone reprend en nous plaçant cette fois-ci à l'intérieur du RAID pour Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion, un groupe d'élite de la police nationale à ne pas confondre avec le GIGN, sinon on s'en prend une clé de bras tout en devant renier son adoration à Brian De Palma.
Le RAID, l'élite de la police, des super agents surentraînés. Leur devise, servir sans faillir.
Suivant.
Bonjour.
Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine?
Je suis là pour le groupe d'intervention du RAID.
C'est un danger pour le groupe, une gonzesse.
Une femme, Froissart.
Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque.
Bon, on a une femme, c'est comme ça.
Oh non! Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses.
Effectivement, vous n'êtes pas du tout macho. Je me suis trompé.
Mais oui.
Tout est là, ou presque, hein, car ce qu'on ne comprend pas en entendant cette bande-annonce, c'est que cette femme qui veut faire le raid est une flic du genre gaffeuse, un Pierre Richard en femme. Son commissaire ne sait plus quoi faire d'elle, mais...
Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur?
Mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport.
Donc la fille du ministre Joanna Pasquali va se retrouver intégrée à la formation du RAID, mais attention, évidemment, pas parce qu'elle est méritante, mais parce qu'elle doit se marier avec le fiston d'un industriel du pneu et que cette promotion doit virer absolument au cauchemar. C'est la stratégie du père ministre de l'Intérieur. Si sa fille est dégoûtée par le RAID, eh bien elle abandonnera son rêve et reviendra au foyer. La comédie prend donc le contre-pied et délivre un autre message. Si on s'accroche à ses rêves, eh bien il pourrait se réaliser. Le problème de Red Dunk, c'est que les deux personnages principaux sont plutôt ratés, hein. L'agent Eugène Froissart, surnommé Poissard, cinémisogyne, n'est pas si cruel et on détecte immédiatement sa faille. Quant au personnage personnage féminin, elle passe de nullissime à acceptable sans trop broncher. L'interprétation d'Alice Paul, déjà vue dans Superchondriaque, tout en mimique et surjeu, est vite insupportable. On regrette Pierre Richard, modèle dont voulait s'approcher Danny Boone. Le rapport entre ces deux personnages qui vont évoluer ne prend pas. Ce qui résiste, ce sont les personnages secondaires. Un Yvan Attal en terroriste fantasque improbable, François Levental, qu'on a écouté là dans l'extrait, en chef du raid, et Michel Blanc en ministre de l'Intérieur. Voilà les personnages secondaires à sauver. Danny Boone s'affiche avec des comédies dont les recettes sont un peu trop fades pour être savoureuses, alors qu'on a des comédies décalées et rafraîchissantes, hein, en ce moment, à l'image de celle d'Antonin Peretjatko, La fille du 14 juillet, La loi de la jungle, ou dans un autre style, celle de Philippe Lachaud, avec de vraies trouvailles visuelles, comme Alibi.com, qui sort le 8 février. Eh bien, Danny Boone semble appliquer des règles à l'ancienne où rien ne déborde, à tel point qu'ici, Danny Boone est bienveillant avec le raid du début à la fin. Alors, voilà, c'est comme ça. Il a dû passer un agréable moment en leur compagnie.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Mais enfin contrôler qui est qui.
Quoi qui est qui?
Bah quoi qui est qui quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Depuis le début de l'année, nous n'arrêtons pas de diffuser des interviews. Ce sera encore le cas la semaine prochaine avec Philippe Lachaud pour la comédie Alibi.com. Plutôt réussi. Et puis, Aung San Suu,
c'est le nouveau Aung San Suu, Yourself and Yours, une histoire de picole et d'amour, encore une fois.
Merci Manu.